Un cordial bonjour à chacun de vous, chers amis auditeurs. Ce jour est un jour spécial, car c'est le premier jour du reste de votre vie. Peut-être regrettez-vous la façon dont vous avez vécu jusqu'à présent. Sachez que Dieu, dans sa grâce, vous offre un nouveau départ. Ne ratez donc pas le coche. Aujourd'hui, j'aimerais m'adresser particulièrement aux couples et vous poser une question pertinente. Combien avez-vous investi dans votre mariage ? Dans la mesure du possible, écoutez ce message à deux. Il vous fera certainement du bien. Mon épouse est décédée alors que nous avions été mariés presque 49 ans. Dans l'ensemble, nous avons eu un mariage heureux. Mais avec du recul, je confesse que si je pouvais recommencer, il y aurait bien des choses que je ferais différemment. Une chose est certaine, je m'investirais davantage dans mon union. À l'heure actuelle, nous constatons avec tristesse que bien des mariages chrétiens se soldent par un échec. Pour éviter un divorce douloureux, il est important que vous fassiez régulièrement le bilan de votre vie conjugale. Et surtout, faites-le ensemble, à deux. Soyez également conscients du fait que notre adversaire, le diable, déteste et combat de toutes ses forces cette institution divine qu'est le mariage. Il vous faudra donc être particulièrement vigilant et ne pas ignorer ses desseins. Un mariage n'est pas quelque chose de statique. Il faut l'entretenir et toujours cultiver la relation avec votre partenaire. Il vous faut investir dans votre relation conjugale. Voici un nombre d'investissements qu'il faut faire si vous voulez rallumer la flamme de votre amour et stimuler l'élan de votre fidélité mutuelle. Premièrement, investissez en disant la vérité et en faisant les bonnes confessions. Soyez transparents et honnêtes l'un à l'égard de l'autre. Le secret, c'est de le faire avec amour, même si votre époux ou votre épouse se fâche. La Bible nous exhorte à dire la vérité dans l'amour. Quand vous dites la vérité, vous n'avez rien à cacher. Dieu honore et récompense toujours la vérité. À nous de choisir si nous parlons de manière créative ou destructrice, positive ou négative, dans le doute ou avec foi. Confessez les vérités et les promesses de la parole de Dieu. Le Seigneur dit, par exemple, qu'il fait toutes choses nouvelles. Réclamez cette promesse pour votre couple et confessez-la. Deuxièmement, investissez dans l'écoute. L'absence d'une bonne écoute est une des plaintes principales qu'émettent des couples découragés. Vous rabaissez votre partenaire quand vous ne lui prêtez pas toute votre attention quand il vous parle. Certains époux continuent à regarder la télévision ou à travailler sur leur ordinateur, tandis que leur partenaire leur parle. Les conséquences d'un tel comportement peuvent être désastreuses. L'absence régulière d'une écoute attentive peut décourager l'autre moitié de se confier à vous et d'échanger sur des sujets importants. Bien des gens divorcés ont confessé que la raison pour laquelle ils ont cédé à la tentation, c'est parce que quelqu'un d'autre que leur conjoint était prêt à les écouter. Ils n'avaient personne avec qui partager des sentiments intimes. On estime que la communication et le dialogue font partie des besoins les plus importants d'une femme. Elle a beau agiter le drapeau rouge pour avertir son mari, si celui-ci regarde dans l'autre direction, il ne doit pas être surpris lorsque l'amour s'éloigne de lui. N'oubliez pas, chers époux, l'écoute et une bonne communication constituent également la base pour une bonne relation sexuelle. Le troisième investissement, c'est prier ensemble. La prière sera votre investissement le plus enrichissant. Ne pas prier ensemble en tant que couple est synonyme de permettre à des parasites spirituels de ronger votre relation. Communiquez à deux avec votre Père Céleste. Permettez au Saint-Esprit d'être votre ami et votre enseignant. La pratique de la prière doit être un impératif pour chaque couple chrétien. Négliger cette bonne habitude est comme si vous ouvriez toutes vos fenêtres et vos portes pour permettre aux voleurs de pénétrer. Or, le Seigneur vous dit à présent, veillez et priez, afin de ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mon épouse a toujours insisté sur l'importance de prier à deux. Nous avions l'habitude de prier pour bien des sujets tels que nos enfants, notre vie conjugale, notre ministère et l'Église persécutée. Vous ajouterez un plus à votre vie de prière à deux en vous tenant par la main. Si vous ne l'avez jamais fait, pourquoi ne pas commencer aujourd'hui? La communication représente un quatrième investissement. Des sondages effectués par des conseillers conjugaux ont révélé que l'absence de communication au sein du couple constitue le problème conjugal numéro 1. La capacité de dialoguer sur n'importe quel sujet représente le principe fondamental du mariage. Sachons toutefois que la communication n'est pas uniquement verbale. Nous pouvons exprimer notre attitude de diverses manières, par exemple par un sourire, un regard furieux, un haussement d'épaule, un froncement du sourcil, etc. Cette communication non-verbale peut être parfois plus éloquente et plus puissante qu'une communication verbale. Bien des experts confirment qu'un manque de communication et de compréhension fera naître un désaccord qui finira par atteindre tous les autres aspects de la relation conjugale. Le couple est censé communiquer sur une base régulière. C'est une habitude des plus importantes qu'il faut impérativement cultiver. Il faut veiller à être franc et honnête, mais il faut aborder des sujets délicats qui font mal. Vous devez faire connaître à votre partenaire ce que vous ressentez, et ceci d'une telle façon qu'il comprenne ce que vous voulez dire. Ceci s'applique particulièrement à votre vie intime. Dites à votre époux et à votre épouse ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Dites-le-lui avec amour et avec tact, mais dites-le-lui. Gardez vos sentiments pour vous-même après une mauvaise passe peut créer de l'animosité et de l'amertume. Cinquièmement, investissez en prenant du temps pour et avec votre conjoint et ayez des intérêts en commun. J'ai connu un temps où mon ministère occupait la majeure partie de mon temps et où je négligeais mon épouse et mes enfants. Il fallait que le Seigneur tire la sonnette d'alarme pour me faire revenir à mes sens. S'il y a une chose que je regrette, c'est de ne pas avoir consacré davantage de temps à ma chère épouse. Ne commettez pas la même erreur. L'Ecclésiaste nous dit qu'il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour travailler et il y a un temps pour se détendre à deux et à se régaler tout simplement de la présence de l'autre. Ne permettez pas que le travail et toutes sortes d'activités vous empêchent de passer du temps de qualité ensemble. Évitez que l'ennui et le train-train s'installent dans votre union et la privent de la saveur et de ses joies. Découvrez les intérêts et les activités que vous aimez tous les deux. Qu'il s'agisse d'un sport, de la musique, de la pêche ou d'un autre loisir, pratiquez-le ensemble. Je me souviens avec plaisir des parties de tennis de table que nous avions faites, mon épouse et moi, sans oublier les promenades en montagne et les bains de mer. Un sixième investissement consiste à changer nos mauvaises habitudes. Dans son livre « Empreinte invisible », le docteur Dobbins écrit « Aussi longtemps qu'une personne peut tolérer la manière dont elle est, il y a peu de chances qu'elle change, à moins que la douleur de rester le même soit plus grande que la douleur que cause le changement, les gens préfèrent rester les mêmes. » Fin de citation. Si nous voulons rompre avec une mauvaise habitude, nous devons passer à l'action et nous exercer à vaincre cette habitude. Une mauvaise habitude peut empoisonner la relation conjugale. Se mettre en colère dès que quelque chose nous déplaît, au lieu de réagir avec douceur et sagesse, peut porter un coup fatal à une relation d'amour. Critiquer sans cesse son conjoint, le rabaisser et le diminuer, au lieu de lui faire des compliments quand il les mérite, ou trop dépenser, toutes ces mauvaises habitudes, et bien d'autres, nuisent à une bonne entente entre époux et peuvent s'avérer être fatales. Il se peut que vous ayez besoin d'attaquer le problème à la racine même, ou d'avoir recours à de l'aide venant de l'extérieur. Monsieur, madame, ne permettez pas à vos mauvaises habitudes de provoquer le naufrage de votre mariage. Et voici un investissement particulièrement important. Il s'agit du pardon. Essayez de garder cette simple vérité à l'esprit, hier est passé. Peu importe ce qui soit alors arrivé, c'est fini. Il se peut que vous ne viviez pas pour voir le lendemain. En conséquent, tout ce qui vous reste, c'est le présent. Ne permettez pas au passé d'empoisonner votre présent. En tant qu'époux et épouse, nous nous rendons tous coupables de péchés de toutes sortes qui nécessitent non seulement le pardon de Dieu, mais aussi celui de notre partenaire. Nous devons donc faire preuve d'humilité et nous devons confesser nos fautes à l'autre et lui demander pardon. Quand nous nous pardonnons, nous libérons celui qui nous a blessés. Mais le pardon est comme une épée à double tranchant. Il libère aussi en même temps celui ou celle qui a été blessé. Le non-pardon est mortel pour la relation conjugale parce qu'il élève un mur de séparation entre les deux conjoints. Dans le Notre Père que le Seigneur Jésus nous a enseigné, nous demandons au Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. À la fin de cette prière modèle, Jésus revient juste sur un thème, celui du pardon. Voici ce qu'il a ajouté. « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » En préparant les jeunes couples pour le mariage, un célèbre pasteur avait l'habitude de leur dire que dans la vie conjugale, nous avons besoin d'une portion généreuse de pardon. Combien il avait raison. Voici le témoignage poignant d'Iris Delgado, une théologienne et conférencière internationale. « J'ai désiré la mort de mon père à cause de l'abus dont j'ai souffert en tant qu'enfant. J'ai choisi de pardonner à mon père quand j'ai compris la signification des paroles de Jésus dans Jean 20, verset 23. « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Dès que j'avais décidé de lui pardonner, j'étais libéré. Les souvenirs n'ont pas disparu, mais la douleur cinglante et la haine se sont estompées avec le temps. Faites un puissant investissement dans votre mariage en pardonnant à votre partenaire. Peut-être ressentez-vous le besoin que quelqu'un prie pour vous. Soyez libéré. Fin de citation. La Bible exhorte, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. D'après cette parole, un grief, une dispute ou une querelle ne devrait jamais durer plus longtemps qu'une journée. La parole de Dieu vous interdit d'emporter votre grief, votre amertume et votre non-pardon dans votre sommeil. Chers amis, si vous ne l'avez pas encore fait, commencez dès maintenant à faire ces investissements dans votre mariage. Vous ne tarderez pas à y voir des changements significatifs et la flamme de l'amour qui est actuellement peut-être presque éteinte s'embrasera de nouveau. Seigneur, puisses-tu maintenant bénir la vie conjugale de mes auditeurs et auditrices. Ranime la flamme de leur amour et restaure les couples malades. Je te demande cette grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Si jamais vous aimeriez recevoir une copie de ce message, contactez-nous au 05 96 53 68 32. C'est le 05 96 53 68 32. À la semaine prochaine sur cette même longueur d'onde, puisse le Seigneur aplanir votre sentier et vous attirer toujours plus à lui.